notre invité qu'on a découvert dans The Voice, émission dans laquelle il a fait se retourner tous les fauteuils en plus de nous faire tourner la tête. À ce jour, enrichi de son charme et de sa voix incomparable, la variété française n'est plus la même. En 2016, il a glorieusement représenté la France à l'Eurovision avec sa chanson « J'ai cherché ». Et depuis, il a trouvé son public, le succès, l'amour. Mais le plus important aujourd'hui, il a trouvé le chemin dans notre studio. Le chanteur Amir est avec nous ce matin.
Bonjour.
Bonjour Amir.
Ça va ?
Ça va ? Quel succès !
C'est gentil.
Non mais c'est vrai. Hein, vous avez parcouru du chemin depuis quelques années là.
C'est vrai. C'est, j'ai l'impression de vous rencontrer à chacune des étapes.
Ah bah oui, je sais un peu. Non mais c'est vrai. Comment vous expliquez ce succès ? Vous en réjouissez en tout cas ?
Évidemment. Mais je n'en suis jamais suffisamment satisfait. J'essaie de toujours en faire plus pour vivre des choses encore plus folles. Et l'ambition est vraiment la même que le premier jour. Comme j'ai tout
approuvé
encore.
Le plaisir est toujours le même.
Le plaisir, évidemment, il grandit même. Mais je me réjouis de chaque instant et j'ai l'impression que j'ai encore tellement envie et tellement besoin de faire des trucs dans la musique que c'est un réel bonheur. Enfin, je ne m'en lasse pas et je pense que c'est là que je comprends que je fais le métier que j'aurais dû faire.
Vous avez eu un diplôme de dentiste, mais vous n'avez jamais été dentiste.
Exactement.
Ouais. Donc là, si je vous dis j'ai une carie, non.
Allez, je suis dentiste, quoi.
Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à faire de la musique parce que je savais que j'avais un parachute.
Vous n'avez même pas fait des stages de dentiste avec la roulette et tout ça ?
Si, à la fac, en fait. On avait beaucoup de patients.
Et ça vous plaisait ?
C'était très sympa.
Ouais.
Mais c'est moins excitant. Moi, j'aime ça. Mais c'est moins excitant que de faire de la musique, que de monter sur scène, que de chanter pour des milliers de personnes, qu'écrire des chansons, que créer. C'est ça qui me botte, moi.
Et là, vous venez d'être papa, Amir. Vous êtes venu ici chercher un.
Merci beaucoup.
Vous êtes venu ici chercher un peu de calme. Vous voulez que je vous prête mon bureau pour une petite sieste? Qu'est-ce que cette paternité a changé dans votre vie, à part le manque de sommeil?
Alors pour l'instant, c'est abstrait. Hein. Je sais que je suis tombé amoureux. Ça, c'est clair. Je vibre pour ce bébé-là. Mais en même temps, qu'est-ce que ça a changé? Je sais pas. C'est peut-être trop tôt pour savoir. Mais j'ai comme une impression, je sais pas si je peux m'y fier, mais une impression qu'il y a un vrai objectif maintenant, que la vie a pris un sens, un cap beaucoup plus clair, beaucoup plus stable, beaucoup plus défini, que je ne suis plus, je suis plus entre mille choses. Enfin, j'ai l'impression de savoir pourquoi j'existe.
Ça s'appelle le parc, en fait.
Ça vous canalise, en fait.
À 100%.
Parce que vous étiez un peu foufou. Un peu...
Bah oui, mais je suis de nature hyperactive. Et c'est vrai que.
Il paraît que votre femme a dit un truc. Elle a dit bah, les gens, ils l'aiment, mais s'ils savaient. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase?
Je pense que je suis pas facile à vivre.
C'est-à-dire?
Parce que j'ai la tête qui part dans tous les sens.
Vous êtes hyperactive, c'est ça? Vous avez 158 applications dans votre téléphone?
Pas que, oui, mais c'est entre autres. Enfin, je pense que depuis, ça a grandi en plus.
En plus?
Ouais, mais c'est pas que ça. C'est que je fais 4000 choses à la fois. Parfois,
vous
je
levez la nuit, c'est ça? Vous écrivez?
Oui.
Il paraît que vous descendez d'un avion, vous allez courir.
Oui.
Et il remonte dedans en vol, c'est très impressionnant. Moi, je l'ai vu faire, ça m'a flippé. Hein.
Non, mais il est très difficile d'attraper mon attention plus de 30 secondes. Quand quelqu'un me parle, je peux me perdre très très vite parce que j'ai une idée subitement qui tombe et il faut que je la mette sur papier ou que j'appelle quelqu'un ou que je fasse un message. Oui, c'est comme ça.
Donc c'est un peu fatigant pour l'entourage, ça.
Absolument. Pas pour moi, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude d'être. C'est mon cerveau qui est comme ça. C'est même bien quand on est dans un métier de création. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les gens qui nous accompagnent.
Vous êtes comme tout le temps en éveil, en fait, c'est ça ?
Exactement.
Alors là, vous sortez une édition de luxe de votre précédent album. C'est quoi une édition de luxe ? C'est votre musique, mais en bling-bling, c'est pour ça ? Bah qu'est-ce qu'on a en plus ? On a une photo de vous en petite tenue. Enfin, je ne m'entends pas. C'est pas pour moi, c'est pour une amie.
Oui. Bien sûr.
Avec, ça arrive là.
Alors, édition de luxe, c'était un prétexte, c'était un mot plus beau pour dire en fait on a fait un nouvel album, mais ça n'en est pas un.
Il y a 14 nouveaux morceaux.
Exactement.
Mais pourquoi vous n'avez pas dit c'est un nouvel album ?
C'est une très très bonne question. je vais vous dire, moi je suis un homme de parole. Ouais. Et je me suis promis que avant de faire un nouvel album, je prendrais le temps, le recul nécessaire pour vraiment concevoir quelque chose et apporter de la nouveauté à mon public qui le mérite parce que je n'ai pas arrêté depuis 2016. Et c'est là où, quand on est rentré en studio pour écrire 2-3 morceaux pour la réédition.
On a écrit 14.
Bah exactement. On a cet élan-là de volonté de faire des chansons avec mes les équipes et c'est instoppable, c'est inarrêtable. À un moment, il a fallu que le directeur artistique entre dans la pièce et qu'il lui dise stop, on en a assez. C'est vrai qu'il y en a suffisamment pour un nouvel album, mais je me suis promis de faire ce fameux break. Donc
un break, vous allez quoi, vous reposer, c'est ça?
Non, un break, la voiture. Ça allait marcher.
Pour les vacances.
C'est les melons.
Je sais pas si c'est du repos dont j'ai besoin, mais il faut que je m'éloigne de ce quotidien. Un petit peu.
Pour vous ressourcer.
Pour me ressourcer, pour mon bien physique, mais aussi le bien de ma carrière, le bien de la relation que je mène avec mon public. Il faut qu'on se languisse, il faut que quelque chose se passe pour tourner la page.
Vous éloigner pour que les gens vous désirent, mais ils vous désirent déjà beaucoup.
C'est gentil, mais c'est même pas une question de désir. Je pense que même moi, j'apprendrai à apprécier des choses que je suis incapable de voir là avec la tête dans le guidon. Je comprendrai peut-être ce qui m'est arrivé.
Parce que là, vous êtes produit dans plus de 30 pays depuis 5 ans.
Oui.
C'est un espèce de tourbillon, en fait.
Absolument. On a fait jusque-là 180 concerts officiels. On en a encore avant la fin de l'année, au moins une quarantaine. Et puis jusque-là, je sais que je suis en mouvement perpétuel. Je sais que je suis animé par l'excitation que ça me procure, mais que j'ai pas encore vraiment réalisé ce qui est arrivé depuis 2016. Vous faites un récapitulatif en début d'interview qui presque passe à côté de moi parce que j'en suis pas vraiment conscient de tout ça. Et j'ai pas encore pris le temps de prendre conscience des choses. Et je pense que c'est très important dans la construction d'une carrière, quand on pense à l'avenir, de savoir d'où on vient, par quoi on est passé et ce qu'on a envie de faire par la suite.
Que de paroles de sagesse.
Bravo.
Moi, je me reconnais dans vos chansons, vraiment.
Ah.
Ah oui, mais absolument. Parce que vous voyez, moi aussi, par exemple, j'ai connu des... Les états d'amour. Vous voyez, vous savez, tous ces moments où on a l'impression de vivre une... Idéal, idylle, idéal, idylle. Vous savez, ces moments où on a envie que... Voilà, après, évidemment, j'ai connu des chagrins d'amour. Le chagrin, on croit que ça partira jamais. On a l'impression de se promener toute la journée dans... Les rues de ma peine. On a envie de crier au mec... Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que... Tout passe. En fait, c'est ça le secret. Hein, le secret, c'est de... Et aussi, évidemment, de regarder... Mais bon, je suis désolée Amir, mais parfois laisser la vie faire, parfois ça marche pas. Hein. Et regarder autour de soi, ça marche pas non plus. Parfois, il faut aller sur Tinder. Et puis là, on fait une rencontre, on s'échange un... Et là, on a à nouveau envie de... Bon, alors évidemment, on ne sait pas si ça va durer longtemps. Mais en attendant, on profite de... Idéal, idylle,
idéal, idylle. Bravo.
Vous parlez quand même... Vous parlez beaucoup, beaucoup d'amour dans vos chansons, Amir.
Oui, en effet, surtout dans le deuxième album. C'est une frustration que j'ai portée tout le long du premier et des singles qu'on a sortis. Je me suis interdit de parler d'amour.
Pourquoi ?
J'avais l'impression qu'on m'attendait sur un angle de crooner et j'aurais dit je vous prouvais le contraire. Puis après, le deuxième album arrive, le truc est un peu plus installé, je me permets de me lâcher. Et quand je me lâche, ben, je parle de ce thème qui nous inspire tous. Mais quand je dis amour, je ne dis pas que l'amour entre dans un couple. Hein. Je parle de l'amour qu'on peut avoir pour sa famille, pour un petit frère que l'on guide. L'amour au sens beaucoup plus humanitaire de la question. Que seront les hommes sans l'amour que la vie leur donne ? Par exemple, c'est une chanson qui a été écrite sur le lendemain de l'attentat de Nice. Et c'est une chanson qui pour moi, essaie de regarder l'axe quelle est la raison pour laquelle ces choses nous arrivent? Pourquoi est-ce que s'abattent sur la terre des instincts démoniaques, des volontés aussi difficiles, aussi affreuses, aussi méchantes? Et je me suis demandé si c'était pas parce que parfois on tournait le dos à l'amour et que lui aussi décidait de faire, on rentrait dans un espèce de tourbillon qu'on pouvait pas arrêter, dans lequel on devient de plus en plus méchant et ça ne revient pas et peut-être qu'il faut se questionner. Donc je sais pas, là je suis en train de philosopher sur une chanson, mais la réalité des choses c'est que quand j'écris, je me pose un million de questions et j'essaye de les mettre sur papier. C'est vrai que très souvent on revient à l'amour qui est un sens fondamental de ce monde et il est important de le reconnaître.
Alors Amir, sur la pochette de l'album, on vous voit regarder vers le bas en riant, vous regardez quoi? Non, mais je demande.
Il y a une partie de chez vous qui vous fait rigoler.
C'est très souvent les photos, quand on m'envoie un choix de photos, celles qui me plaisent le plus, c'est celles dans lesquelles Je savais pas qu'on me prenait en photo. Celle dans laquelle j'ai ce sourire un peu intimidé entre les pauses quand il me dit fais ci, fais ça, ou qu'il a raconté une blague. Et c'est celle qui me plaise le plus. Et en général, elle finit sur les couvertures d'albums. Ou...
Amir, vous allez faire la tournée des Zéniths, 19 au total. Ça fait quoi de faire autant se déplacer les foules?
C'est émouvant. C'est émouvant parce que j'oublierai pas les salles avec lesquelles on a commencé, où il y avait à peu près un 20e de la taille d'un Zénith, et qu'on était quand même heureux de voir que les gens ont pris le temps de venir au concert, d'acheter une place, d'écouter nos chansons. Donc maintenant, quand c'est à cette échelle-là, évidemment que ça nous émeut, c'est un très bon signal, et puis je pense que c'est prometteur pour la suite de cette histoire, parce que je le vis vraiment comme une relation réelle. Le public, pour moi, est mon deuxième amant, quoi. Enfin,
mon amant,
amante, je sais pas, mon conjoint,
maîtresse.
Ma maîtresse, par exemple.
Je comprends pourquoi il y a autant de monde qui vient.
Mais, soirée sympa.
Mais c'est une relation que je mène vraiment comme une relation de couple, dans laquelle j'ai toujours envie de surprendre, de montrer de l'attention, d'écrire. Mes chansons sont souvent des lettres d'amour pour le public, et voilà, c'est vrai. C'est... Ton regard là, Anne.
Ah bah, elle est en train de
foutre. On va la perdre.
Là, elle est sur le flac.com, elle cherche des places là.
Alors, Amir, quand vous aviez 14 ans, vous avez volé des pièces de collection à votre père pour vous acheter des lunettes de soleil.
Ouais, et le pire, c'est qu'il est exceptionnellement aujourd'hui venu avec moi au studio. Donc, il est derrière cette vitre. Et peut-être que je vais me faire corriger.
Est-ce qu'il le savait ou pas ?
Il le savait pas à l'époque, il l'a découvert.
Il est en train de retourner la régie.
La vitre n'est pas solide. Hein.
Vous avez vendu des pièces sans lui dire ?
Ouais, je les ai échangés à la Banque de France contre des billets pour m'acheter des lunettes qu'il ne voulait pas m'offrir.
C'est quoi ce cacou là ? C'est
affreux. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je culpabilise encore.
Vous lui avez rendu ?
Pas encore, mais je compte lui offrir une petite collection de pièces de 100 francs pour me faire pardonner.
Ah, il a le sourire, votre papa, là.
Ça va nous coûter beaucoup plus cher.
On est passé à l'euro depuis.
Amir, il y a quelqu'un qui vous a beaucoup aidé dans votre carrière, c'est Patrick Bruel.
Ah, c'est vrai.
Il vous a autorisé à reprendre en hébreu une de ses chansons.
De ses chansons,
ça donnait quoi, Patrick Bruel, en hébreu ?
Kachelim tom ilim shemevatot et ma shelo yotze bli klishaot ulai ze zman lo tov aval ani mitamem ta-na-na-na-na-na, je t'aime. Et c'est parti de là, ouais.
Et Patrick Bruel vous a aussi pris en première partie de ce concert, parfois ?
Il m'a pris en duo, mieux qu'une première partie. Il a fait un concert devant 11 000 personnes à Tel Aviv, à l'époque j'étais étudiant. J'oublierai pas ce jour-là où je commence la journée dans le bus pour aller à la fac et je la termine sur scène devant 11 000 personnes avec Patrick Bruel. C'était assez dingue.
Qu'est-ce que vous a donné comme conseil, Patrick Bruel, Amir ?
Bah, il m'a dit qu'il trouvait ça, que tout ce que je faisais était émouvant. C'est ses mots, hein. Et qu'il voyait beaucoup de sincérité. Et moi, en face de lui, j'étais là, blanc, et je m'excusais d'être là, quoi. Je lui disais, mais ça, c'était pas très bien, et ça, c'était pas. Mais en fait, dans mon cœur, je pense que plus tard, j'ai réalisé qu'en fait, Patrick Bruel venait me donner un compliment, qu'il a cru en moi, qu'il m'a quand même laissé la scène. Et je comprends aujourd'hui, quand je suis artiste aussi, que c'est pas évident de laisser quelqu'un qui est au départ un admirateur monter sur scène pour faire un duo.
Non, mais il a détecté votre talent en même temps.
Bah, peut-être. En tout cas, il a eu le courage de me permettre, parce qu'on n'avait même pas répété. Et au final, ça a créé un moment magique. Et puis, je n'oublierai pas.
Il y a une filiation entre vous, parce que lui, c'est un grand séducteur. Vous aussi, quand même.
Ah, je ne m'attendais pas à ça.
c'est vrai. Et c'est marrant parce que ça fait 3 ans qu'on est assis dans la même loge, l'un à côté de l'autre aux Enfoirés, et qu'on partage à chaque fois une semaine de transmission, un peu. Ouais. Il me transmet des conseils de carrière. Moi, je lui apprends à utiliser son téléphone portable.
Vous voulez télécharger des applis,
ouais,
c'est
par
ça
exemple.
Et lui, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil de carrière, Patrick Bruel ?
Bah, un tas de choses, mais ça part même des trucs les plus banals, hein, les plus petits conseils de tous les jours. C'est vraiment une relation de grand frère que.
Mais
que...
quel genre de conseils, par exemple ?
Bah, les groupies, une par une dans la loge.
Chaque chose. On fait pas du gros que du détail.
Non, je saurais pas en mentionner un comme ça dans l'immédiat, mais c'est vraiment en fait chacune de nos conversations, même les plus quotidiennes, deviennent des conversations dans lesquelles je me nourris de son expérience. Et c'est peut-être pas toujours un conseil volontaire qu'il m'a donné,
ouais,
mais entre les phrases, je les lis, ces conseils, et je m'en nourris beaucoup. D'ailleurs, c'est pas qu'avec lui, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier avec lui, de par sa place du premier artiste qui a cru en moi et qui m'a laissé l'opportunité de chanter, quoi.
Je vous présente quelqu'un qui est un grand séducteur aussi, c'est Laurent Barra. Enfin, un séducteur qui marche pas, mais c'est quand même un grand séducteur.
Une belle mise en avant, ça.
Et alors, il souhaite vous défendre.
Ouais. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs du jury, mes chers collègues chroniqueuses et chroniqueurs, permettez-moi, avant de commencer ma plaidoirie, de vous lire quelques SMS reçus hier, après l'annonce sur mes réseaux sociaux, de la présence de mon client, Monsieur Amir. 9h45, message de mon ex-petite amie. Coucou chouchou, j'espère que tu vas bien, je pense beaucoup à toi en ce moment. Voyons-nous pour un café, selon tes disponibilités. PS, passe le bonjour à Amir. 11h32, message de mon banquier. Bonjour Monsieur Barra, c'est Monsieur Dufour, votre conseiller clientèle. En ce qui concerne l'augmentation de votre autorisation de découvert, ne tenez pas compte du mail de refus envoyé la semaine dernière par mon misérable stagiaire intérimaire. Votre demande a bien évidemment été acceptée. PS, amitié à Amir de la part de toute l'agence. Alors effectivement, Madame la Présidente, si mon client ici présent est accusé d'être un séducteur notoire, à la vue des réactions de joie que suscite sa présence... Nous n'avons pas d'autre solution que de plaider coupable. Mais est-on réellement coupable de provoquer des émotions positives dans un monde où elles se font de plus en plus rares? Émotions positives pouvant aller du simple cri de joie à l'évanouissement, en passant dans certains cas plus inquiétants, je vous l'accorde, par l'orgasme incontrôlé. Car oui, Madame la Présidente, mon client est un séducteur. Mais un séducteur au sens noble du terme, hein. Nous ne parlons pas là d'un vulgaire prof de bachata. Hola muchacha, bouge ton bassin, pivote, pivote, caliente, caliente. Non, mon client est ce que l'on appelle vulgairement un mec bien. Jeune père de famille, artiste de talent, voix envoûtante, sourire étincelant. Bref, moi qui suis totalement hétérosexuel, j'ai presque envie de me lever et lui rouler une pelle. Séduction naturelle qui peut parfois blesser sans le vouloir. Lui qui tweetait le 14 février dernier, joyeuse Saint-Valentin à tous ceux qui voudraient que ça dure 100 ans, mon cher Amir. Sachez qu'autour de cette table, ça fait presque 100 ans que certaines personnes cherchent un Valentin. Hein, ça va, Madame la Présidente?
Si tu savais.
Non. Mais comment en vouloir à mon client dont les chansons agissent comme de véritables pansements sur les blessures de la vie? Il est séducteur? Oui. Nos femmes le désirent plus qu'elles nous désirent, nous? Oui. Mais c'est uniquement de notre faute, messieurs. Eh oui, elles qui trouvent dans les titres des chansons de Amir, telles que « Il est temps qu'on m'aime »,« Le cœur dans les cordes »,« État d'amour »,« 5 minutes avec toi »,« Idéal idylle », plus de romantisme que dans nos pathétiques « Qu'est-ce qu'on me bouffe ce soir ?» Alors, à la lumière de tous ces éléments, Madame la Présidente, je réclame la relaxe pour mon client. Car à l'heure où nous sommes tous devenus dépendants de choses totalement inutiles, il est grand temps que le mot séduction rime avec addiction. Wow.
Alors Amir, votre vrai nom c'est Laurent Amir Khalifa Kedider Haddad, c'est ça ? Vous avez bien fait de changer. C'est très très long ce nom.
Ouais, mais on m'a toujours appelé Amir.
Ah oui,
ouais, ils ont pioché le plus court des quatre et c'est avec celui-là que j'existe depuis toujours. Mais
alors votre papa était médecin, votre maman infirmière, j'imagine.
Il est médecin, mon père.
Oui,
d'ailleurs,
quand vous étiez enfant, le coup du malade le lundi matin pour rater l'école, ça marchait pas.
Non,
vous avez jamais pu le faire.
Non, mais j'avoue que j'aimais bien moi aller à l'école pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait toujours une fille dans la classe qui me plaisait. Et la deuxième, c'est qu'avec les copains, on faisait des matchs de foot, on faisait des bêtises, on était bien, quoi. J'aimais bien, moi, la vie de l'école, franchement.
Vous aimez bien être enfant, en fait.
J'adorais ça. D'ailleurs, je pense qu'une part d'Amir l'enfant est toujours très, très, très existante en moi et ça me, ça me dérange pas du tout.
Ces histoires d'applications sur votre téléphone, qu'est-ce que vous avez? Parce que 158, moi, ça rentre pas. Dès que j'en ai plein.
Vous avez un Nokia 3810.
Non, mais moi, ils me disent espace saturé. Non. Ils me disent d'acheter du stockage. Mais j'ai pas que ça à faire d'acheter du stockage. Oui, il me dit et augmenter votre stockage.
Oui, c'est vrai.
Ah, c'est ça?
Ouais,
bah,
acheter.
Ou alors, ils me disent supprimer. Alors, je supprime, mais du coup, j'en perds. Donc, j'en ai jamais.
Non, mais vous montrerez.
Non, moi, je télécharge des applications pour les utiliser réellement. C'est-à-dire que j'ai fait connaissance avec le smartphone en 2007 déjà et depuis l'époque j'ai commencé à m'habituer à comment dire à déléguer beaucoup des choses que je faisais moi-même au téléphone.
Quoi,
c'est marrant à dire parce qu'aujourd'hui je vois que c'est devenu une routine
quoi,
pour tout le monde, mais je sais pas, tout ce qui est livraison, achat en ligne, calcul. Moi j'ai à la maison tous ces appareils avec lesquels on parle et je les utilise régulièrement pour
demander. Ça s'appelle une femme.
Patrick Champion ne vote pas.
C'est juste.
Si c'est moi qui l'avais fait,
c'est juste parce que vous êtes une femme que vous avez le droit de le dire. Ouais.
Vous énervez pas Christine, attention.
Vous avez des appareils connectés à quel vous
Oui, mais tous ces outils de reconnaissance vocale auxquels on demande de calculer des trucs.
Et pourquoi moi je peux pas rentrer plus d'applications? Il faut que j'achète la mémoire.
Parce qu'il faut acheter de la mémoire ou acheter un téléphone qui a suffisamment d'espace. Mais ça, c'est un détail. Je veux dire, moi, dans mon comportement quotidien, le téléphone et les applications sont un outil que j'utilise réellement. Quand on parle d'autant d'applications, c'est parce que c'est des applications que j'utilise vraiment.
Vous calculez combien vous faites de pas par jour, combien vous dormez.
Plein de trucs, ouais. Et j'ai la montre à la main aussi qui agrémente le tout en disant si j'ai fait une séance de sport qui a été bénéfique, s'il faut que je mange un truc de plus ou pas. C'est vrai que je sais qu'on se robotise un petit peu avec ça, qu'on perd de nos instincts naturels.
En fait, votre chanson, j'ai cherché le Wi-Fi.
Ouais.
Si vous n'avez plus de Wi-Fi, vous êtes complètement perdu.
Mais je suis un vrai geek.
Alors Jean-Philippe Vizini a une révélation à vous faire. Amir, il a beaucoup de points communs avec vous.
Énormément.
Allez-y, ça se voit. Hein.
On a beaucoup de points communs, Amir, bien sûr. Déjà, votre album, il s'appelle Addiction. Alors moi, quand j'ai vu un titre comme ça, je me suis dit, ça c'est fait pour moi. Parce que des addictions, j'ai que ça, moi. Je suis addict à tout. Je suis addict à la raclette.
Oh.
Ah oui, ah, le fromage fondu, j'adore ça. Ma femme, elle, c'est le chocolat. Alors la semaine dernière, pour la Saint-Valentin, on a coupé la poire en deux. On a fait une raclette au chocolat, c'est dégueulasse. Ah, je vous le conseille pas, même le chien n'en a pas voulu, c'était pas bon. J'ai plein d'addictions, j'en ai plein. Par exemple, je suis addict au morpion. Le jeu à gratter. Ah bah oui, je vous parle pas des lendemains de soirée Tinder de notre ami Ben H ici présent. Non, on a beaucoup de points communs, Amir, on a beaucoup. Vous avez fait des études de dentiste, vous avez failli être dentiste. J'adore les dentistes. Quand c'est les gens que j'aime pas qui y vont. Ah non, mais c'est vrai, mais à part les sadomaso, personne n'aime aller chez le dentiste, c'est horrible, c'est vrai. Hein, le mec, il te met une lampe dans la tronche comme ça. Il sort une pince, un pic en fer. Dans le jargon de la police, ça s'appelle une bavure, ça. À côté, Benalla, c'est un bisounours, tu vois. Non, mais on m'empêchera pas de penser qu'il faut être un peu tordu pour avoir l'idée d'être dentiste. C'est vrai, c'est quoi? Parce que si son kiff, c'est de passer toutes tes journées les doigts coincés entre les lèvres de tes patients, à ce moment-là, va où? Ah, mais je suis pas sûr de mon coup, là. Vous sentez la chronique qui dérape? Non, mais je vais le faire, mais... J'ai pris un risque. Parce que si ton kiff, c'est de passer toutes tes journées les doigts coincés entre les lèvres de tes patientes, à ce moment-là, va au bout de ton rêve et deviens orthodontiste. Ça gagne plus, voilà. À quoi vous pensiez, à quoi, bande de dégueulasses? Vraiment l'esprit tordu. Hein. On a beaucoup de points communs, Amir. Vous êtes hyper sportif. Hein, la dernière fois que vous êtes venu nous voir à la radio, vous vous souvenez, vous étiez en tenue de fitness, ouais. Vous étiez prêt à partir faire un footing. Moi aussi, j'ai une hygiène de vie exemplaire. Arrêtez de rigoler bêtement, c'est énervant. Moi, comme vous, j'ai téléchargé une appli pour compter les calories que je dépense chaque jour. Et je le fais, hein. Manger un Mars, c'est 400 calories. Manger le dernier Mars, le mercredi après-midi, sans que les gosses s'en aperçoivent, c'est 2000 calories. Faire l'amour à sa femme, 1000 calories. Faire l'amour à sa femme le mercredi après-midi, sans que les gosses s'en aperçoivent, c'est 8000 calories. Vous voyez, Amir, on a plein de points communs, le sport, dentiste, etc. Mais ce qui nous a le plus rapprochés, ce qui m'a rendu le plus addict, Amir, c'est votre album Addiction.
Merci. Oh. Mais quelle bienveillance.
Nous recevons une des plus grandes chanteuses de musical française, celle qui donne la fièvre aux spectateurs. Une légende qui chante le blues et le jazz, une artiste à l'aise sur scène, devant une caméra ou derrière un micro. Elle pourrait être la petite sœur de Liza Minnelli ou l'héritière de Judy Garland. Pour notre plus grand plaisir, mademoiselle Nicole Croisy est avec nous.
11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Vous êtes dans une forme incroyable. Comment vous faites pour être en forme comme ça?
C'est la drogue.
C'est une illusion. Hein.
Ah bon?
Oui, je donne l'illusion. J'ai un gros rhume.
Ah oui,
un gros rhume, et comme on répète tous les jours de 14h à 23h en ce moment, le gros rhume, il prend ses aises. Mais je sais me maquiller et puis c'est tout dans la tête.
Hein. Vous êtes très...
Et puis je suis contente de vous voir, ma chère Anne.
Chante tout, babada.
Cette chanson tirée du film de Claude Lelouch, Un homme et une femme, vous colle à la peau, Nicole Croisy. C'est un bon souvenir pour vous? C'est toujours Shabada ou c'est chiant beaucoup, beaucoup?
Ah non, c'est pas chiant du tout. Au contraire, et attendez, vous allez encore en avoir plus dans la tête de ça. Parce que Lelouch est reparti en guerre, là.
Nicole Croisy, vous avez enregistré votre premier CD sous un pseudonyme, Tuesday Jackson.
Oui.
Are you like an American artist, Nicole Croisy? Would you have make like a career American?
Oh, ah, ça aussi, c'est un don.
What my surprise is that you speak English too.
Ah oui, oui, oui.
Vous auriez, non, vous auriez aimé faire une carrière américaine? Je traduis, hein, tout le monde n'est pas bilingue comme moi. Everybody's not bilingual like me.
Oh là 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 là, les oreilles.
Classe, hein.
Ah ouais, ouais, ouais.
Ah, dites donc, classe, vu,
elle a des dons, hein. Hein.
Attention, méfiez-vous, parce qu'elle va passer en Angleterre. Elle.
Ah ouais, ouais, ouais. Les
elle Américains va aller faire nous... son show en Angleterre.
Vous en faites pas, elle va pas y passer cette semaine.
Comment, vous parlez anglais, Nicole Croisy?
But fluently, my dear.
Oh yeah. Yes. Vous pouvez traduire parce qu'elle a pas compris.
Elle a dit qu'elle parle anglais couramment, wow. C'est vrai?
Voilà.
Ouais. Normalement, vous faites des étirements tous les matins.
À cause de la voiture.
Oui, oui, non, mais patatra. Attendez. Je vais les faire là.
Ah bon?
Ah oui, c'est bien, c'est impressionnant.
Carrément.
Nicole, on est à la radio, ouais, ça se voit pas. Hein.
Expliquez à
ouais, alors. Donc, oh, bah là, elle se penche sur le côté, de l'autre côté.
Oui, debout. Bah.
Moi aussi,
attendez, je voulais vous le faire.
Ah oui, oui,
oui.
Oui,
donc là, d'accord.
Alors là, on est en train de gagner des auditeurs. Là, hein. Voilà, elle est en train
voilà.
De.
Voilà.
Oh, c'est formidable.
Donc c'est Véronique et Davina sur.
Moi aussi, je fais des étirements, mais dans mon lit, est-ce que ça compte?
Oui, 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 au départ, avant de se lever, c'est très important. Si vous vous étirez bien.
Et les étirements à deux, ça compte aussi comme sport?
Ça compte pour l'entretien de son corps.
Ah.
Ça compte comme étant une bonne gymnastique.
Du corps?
Du corps.
D'accord, vous voyez, Ben H est voilà. Très, très entraîné.
Ah oui, lui, c'est un athlète.
Moi, je m'étire tous les jours, trois fois par jour. Ah ouais, qu'est-ce que je peux m'étirer?
Faites ce que je viens de faire, montrez-nous.
Avec trois coachs différents.
Ah non, moi je m'étire en duo.
Vous vous tirez surtout.
Et à 82 ans, on vous drague encore, Nicole Croisy?
Non, je crois que maintenant, compte tenu de la couleur de mes cheveux et tout ça, je pense que ça calme un peu. Ça calme les gens. Ils n'osent pas. Non, ils n'osent pas. Les jeunes sont assez intéressés, mais je me méfie parce que... Oui, non, je me méfie. Quand les jeunes viennent vous faire des salamalek, c'est un peu parce qu'ils savent qui vous êtes et ce que vous faites. Mmh. Donc, je suis un petit peu désabusée avec ça.
Il y a la tendance des
cougars
aussi.
Je n'y crois pas.
Vous n'avez jamais été avec un jeune, Nicole Croisy?
Si.
Ah, ah oui. Bah,
moi, j'y crois
quand
pas,
j'avais
mais bon.
40 ans, j'avais un petit ami quand on avait 20.
Oh.
Et quand j'avais 40 ans, c'est il y a 40 ans. Vous imaginez qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus surprenant.
Oui, et ça a duré combien de temps?
Un jeune musicien anglais magnifique. Oh. On aurait dit un Jésus, il était beau.
John Lennon,
ça a duré,
révélation.
Il vous a fait voir la Vierge.
Un mois. Après, j'ai fatigué. Quoi.
Ah, bah, c'est vous qui avez fatigué, pas lui?
Oui, j'ai fatigué, puis je me suis rendu compte qu'il était intéressé par autre chose que mes prouesses sexuelles.
C'est vrai que Jésus, c'est très surfait. Hein.
Nicole Croisy, vous avez mis du temps à accéder à la notoriété. Vous avez trouvé le temps long avant d'arriver. 76 à 35 ans, quand vous jouez à l'Olympia pour la première fois, vous avez eu une standing ovation de plus de 20 minutes. Comment vous avez fait? Parce que moi,
ça valait le coup d'attendre. Hein.
Oui. Parce que moi, quand les gens se lèvent à la fin de mes spectacles, c'est pour partir.
Non, franchement, j'ai mis du temps, mais je suis encore là.
Oui.
Et c'est ça qui compte.
C'est ça qui compte.
C'est la longueur. Alors maintenant, ça n'arrivera plus.
De quoi on parle? Moi, je suis perdu.
On
est encore sur Jésus ou on a changé de
sujet? Parce que je suis actuellement dans un spectacle où les mecs qui sont dans le spectacle ne parlent plus que de ça, puisque ça s'appelle Hard.
Ben oui,
d'accord.
De la Renaissance.
Dans les répétitions, tout le temps, ça n'arrête pas. Ils se défoulent comme des fous, ils se marrent comme des dingues. Et moi, je commence à en avoir un peu marre.
Parce que ça parle que de cul, cette pièce. Ça parle que de cul, cette pièce de sexe.
Ah ben, ça ne parle pas que de ça. C'est une comédie romantique. Il y a un jeune couple. Le couple qui est délicat parce que la jeune femme est d'une famille très catholique, a eu deux enfants, vient de perdre son mari et elle se retrouve à la tête d'une production de films pornographiques. Elle ne sait à peine si elle sait ce que c'est.
Et vous jouez la belle-mère?
Et moi, je suis la belle-mère.
C'est tiré de la,
suis,
de la série sur Canal+.
Pour lui annoncer la nouvelle. Ça ouais. commence comme ça. Faut que je lui annonce la nouvelle. Et je sais que ça va être difficile. Vous apprendrez des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout dans le langage que c'est porno et que c'est drôle. Parce que c'est le même langage, si vous voulez, que les plombiers. C'est un langage, c'est un langage de travail. Personne ne fait attention. Les mots sont
c'est
les
quoi
mots.
Le langage du porno, l'école croisée?
Non, c'est incroyable. Vous, oh, mais je peux pas. Non, je peux pas.
Nicole Croisi, Ben H a des choses à vous dire.
Oui, oui, ben, ma chère Nicole Croisi. Ce n'est pas la première fois que nous sommes réunis dans ce studio. La première fois, c'était il y a un an, souvenez-vous. Nous étions jeunes et insouciants, la vie devant nous. Moi, j'étais un tout jeune chroniqueur, pétri de trac, balbutiant mes premiers portraits. Et vous, vous étiez déjà à l'époque l'immense Nicole Croisi. Pour moi, Nicole, c'était tout comme un vrai premier rendez-vous amoureux. J'avais les mains moites, la gorge nouée, mon pied tapait frénétiquement le sol. Une panique de jeunes puceaux qui pouvaient même s'entendre dans mes bafouilles à l'époque.
Et si un jour on me confie de nouveau votre vie, je n'en ferai pas un portrait, mais une comédie musicale. Madame, merci pour tout.
Ouais, c'est pas très fluide. Oui, j'avais dit la dernière fois que lors de notre prochaine rencontre, Nicole Croisi, je vous écrirai une comédie musicale.
Bon.
Eh ben, je reconnais que je vous attendais pas si tôt. Hein, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. De toute façon, depuis notre dernier rendez-vous, Nicole, où j'avais tout essayé pour vous séduire, il s'est passé exactement 11 mois et 3 jours. 11 mois et 3 jours, Nicole, et vous ne m'avez jamais rappelé. Qu'est-ce que j'ai mal fait la première fois? Je ne suis pas assez bien pour vous, c'est ça, hein? Évidemment, de nombreuses choses nous séparent, j'en suis conscient. Vous avez grandi avec les plus grandes comédies musicales américaines. Moi, j'ai grandi avec Le Roi Soleil et Les Dix Commandements. Vous me parlez de Fred Astaire et de Jane Kelly, moi je vous réponds Emmanuel Moir et Christophe Maé. Bon bah j'ai l'air con, hein, je sais, c'est vrai, hein, tout un monde nous sépare, Nicole Croisi. Vous, vos débuts, c'est le mime Marceau, Joséphine Baker et Jean Marais. Moi je débute avec Jean-Philippe Visini et Michael Quiroga. Hein. Non, ça n'a rien à voir, hein. Le mime Marceau se faisait comprendre sans le moindre bruit. Visini lui en fait beaucoup du bruit, mais on comprend jamais rien.
Mais c'est tranquille.
À la rigueur, Michael, c'est le fils de Jean Marais et de Joséphine Baker, mais selon mes informations, Jean Marais, il était pas vraiment branché Joséphine Baker. Hein, il était plus branché par son célèbre costume en banane. Le genre, le genre qui peut en manger deux par deux. Oui, la dernière fois, Anne, j'avais été très classe avec Madame Croisi, mais vu son rôle dans la pièce Art, je me suis dit, on peut se lâcher. De toute façon, je sais que c'est fichu. Entre nous, hein, je suis pas à la hauteur. Et c'est tout, hein, vous qui avez connu tant de grands moments, notre premier rendez-vous, finalement, c'est un grain de poussière dans l'océan de vos si nombreux frissons. Hein. Votre carrière incroyable, remplie de tubes et de rôles, sans jamais penser à la moindre retraite. À ce rythme, il y a une chance que je prenne la mienne avant la vôtre. Et tant mieux, visiblement. Et tant mieux, parce que toutes les personnalités que j'ai croquées aux côtés d'Anne Roumanoff, vous êtes de celles dont on me parle le plus et de loin. C'est fou ce que les gens vous aiment, Nicole Croisi. Alors, quant à nous deux, Nicole, puisque jamais 203, je vous dis à l'année prochaine. Et cette fois, je l'aurai enfin écrit, votre comédie musicale.
D'accord. Non, mais vous n'avez aucun défaut, sinon que vous êtes trop jeune, c'est tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Ah, vous ne le connaissez pas bien, hein, parce que...
Faites un effort, Nicole.
Vous prenez les hommes à partir de quel âge? 60 ans, Nicole Croisi, ça va? C'est pas trop jeune, 60 ans?
Oui, bah, 60 ans, oui, ça fait 20 ans de différence, ça va, oui, ça c'est va encore possible. Quoi.
Oui, 60 à 80.
Oui. Oui, mais enfin, les mecs de 60 ans, franchement...
Oui, c'est pour ça, les mecs de 30...
Qu'est-ce qu'ils ont, les mecs de 60 ans?
Bah, ils sont un peu amortis, quoi.
Vos chansons, c'est un petit peu l'histoire de ma vie, vous savez.
Ah
oui, parce que l'autre fois, chez des amis, j'ai rencontré un homme d'affaires riche, beau. Après ce dîner, alors plus aucune nouvelle de cet homme, je demandais à nos amis communs.
Parlez-moi de lui.
Alors après, j'ai appris qu'il était parti en voyage. Ensuite, soi-disant, il aurait été...
Singapour.
Alors c'était compliqué avec le décalage horaire Singapour. Et finalement, il est revenu de tous ses voyages, il m'a séduite, on a passé une nuit incroyable et au petit matin, j'ai chanté. Nicole Croisi, vous avez déjà chanté ça à un homme, au petit matin?
Non, ça c'est réservé pour le public.
Ah oui, et quand c'est très très bien, vous le dites pas?
Non, je ne parle pas.
Ah oui?
Non, je suis muette.
Ah oui?
Muette, assommée, hébétée, voilà.
Mais vous faites pas de compliments?
Non, mais
Ma femme
oui.
Non plus.
Ah?
Je dis ma femme non plus.
Elle est pas hébétée, elle dort.
Non, Physiquement, je fais comprendre que je suis satisfaite.
Jean-Philippe,
ça ne le fait pas non plus.
Non.
Jean-Philippe, ta femme te fait pas de compliments.
Il faut lui parler.
Pas souvent, pas souvent.
Parce qu'à moi, elle m'en fait.
Faut lui dire. Ah, mince. Faut lui dire. Faut dire quoi à une femme, Nicole Croisi? Faut lui dire, dis-moi.
Dis-moi.
Alors, c'était bien?
Oui, par exemple.
Ouais. Ah, mais j'ose pas, moi. J'ose pas.
Non, moi, j'ai peur de la réponse.
Ah oui, moi aussi.
Ah, bah oui, mais voilà. Ah, si, bah vous, oui. Si vous vivez petitement et chichement, évidemment, vous n'aurez jamais de grand.
Mais non, mais je fais ce que je peux, mais elle s'endort.
Jean-Philippe Visini.
Oui.
Vous a préparé quelque chose, Nicole Croisi.
Ah.
Bah oui, parce que nous aussi, hein, on aimerait peut-être se lancer dans une carrière un peu pornographique, hein, parce que. Voilà, c'est le thème de la pièce, hein, parce que
oui.
Vous savez que dans nos métiers, tout le monde sait qu'il faut coucher pour réussir. Alors, tant qu'à faire, autant que ce soit avec des femmes qui maîtrisent le sujet. Hein. Ah, je parle pas de l'entretien que j'ai passé ici, mon entretien d'embauche. Hein. Ici, Anne. Non, Anne, ici, tout le monde sait que vous recrutez au talent, hein, et pas au physique. Hein. La preuve, Ben H et Mickaël ont été embauchés. Non, mais pour parler plus sérieusement, avec mes amis chroniqueurs ici présents, on a réfléchi, là, on est en train de bosser sur un scénario de film coquin, et on aimerait profiter de votre présence, Nicole Croisi, comme vous êtes dans la pièce Hard, pour avoir quelques conseils. Alors, donc, je vous présente les acteurs. Donc là, Mickaël Quiroga, alias la poutre du 9-3.
Oui, alors, la poutre, c'était avant mon accident de vélo. Maintenant, c'est la tige, en fait.
Ah, voilà. Et là, à ma gauche, on a Ben H, alias l'anaconda du 18e.
Ouais, alors là, pareil, l'anaconda du 18e, c'était avant que j'allais aux rayons. Maintenant, c'est l'astico de Barbès, quoi.
Voilà. Donc,
quelle humilité.
Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à recruter une actrice. Mais en attendant, Anne, je suis un peu gêné de vous demander ça. Est-ce que vous voulez bien jouer...
Quoi?
Chaque chose en son temps, Jean-Philippe.
J'ai raté. Jouer le rôle de la châtelette pour les répétitions, ça vous...
D'accord. Oui.
Bon, merci Anne. Donc voilà, je vous fais le résumé. Donc Anne, vous êtes la châtelaine et chez vous tout tombe en ruine. Je parle du château, le château. Ah, oh là là. Je parle du château. Vous êtes superbe. Voilà, ça. Oh là là. Du coup, vous appelez le plombier. Allez-y, appelez le plombier.
Allô, monsieur plombier, venez vite. J'ai de l'eau partout.
Oh, ne paniquez pas. J'arrive tout de suite.
Et ben, vous avez fait vite.
Ah, ça va. Non, mais
si. L'efficacité, alors, montrez-moi tout ça. Mais oh là là, il y a de l'eau partout. Faut que j'appelle du renfort.
Oh oui, bonne idée, appeler du renfort.
Ah, bonjour madame la châtelaine. Oh là là, vu le chantier, deux c'est pas suffisant, hein. Il nous faut encore du renfort.
Ah oui, bonne idée, encore du renfort.
Ah voilà, et là c'est là qu'arrive notre troisième acteur. On l'entend arriver au loin. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mimika, c'est toi qui l'as recruté?
Bah oui, mais vu le budget que tu nous as donné, on est obligé de faire des économies.
Bon, voilà, Nicole Croisi, je suis désolé. Je crois qu'on n'est pas encore au niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une bonne base?
Eh bien, je pense que vous aurez du mal à recruter le troisième.
Oui.
Nicole Croisi, vous adorez vous lancer... Nicole Croisi, vous adorez toujours vous lancer dans des aventures incroyables. Là, cette pièce, pourquoi vous avez dit oui? Parce que, justement, c'était quelque chose d'un petit peu hors du commun, le sujet est un peu trash.
Bah oui, enfin, c'est à chaque fois, c'est des défis que j'essaye de dépasser pour rendre ma vie intéressante, puisque l'amour, maintenant, c'est usé. Donc, c'est Briançon, Nicolas Briançon, le metteur en scène, qui m'a appelé pour faire la première lecture, car on passe toujours par une lecture. Comme ce que vient de faire d'ailleurs.
Oui, remarquablement.
Et alors, à la lecture, tout le monde se rend compte si ça peut marcher, si ça tient la route. Et donc, à la lecture, ils ont trouvé que c'était très drôle de me voir, moi, avec des mots dans ma bouche, crus, quoi.
Oui.
Assez crus qu'on n'imagine pas dans la bouche d'une dame.
Mais c'est toujours le décalage qui est drôle. De toute
voilà.
Façon.
Donc, il faut aller les voir au Théâtre de la Renaissance.
Par exemple, très bon enchaînement.
Merci,
bon métier, hein.
L'un est un inconnu, pourtant il est célèbre. L'autre est un maestro de l'improvisation et pourtant il écrit à la fois acteur, auteur et metteur en scène. Ils ont en commun l'amour de la scène. Ils sont souvent dans la pièce Non à l'argent au théâtre des bouffes parisiens. Pascal Légitimus et Philippe Lelièvre sont avec nous ce matin.
monsieur.
Bonjour.
On dit bonjour ou bonsoir parce que je sais.
Bonjour, on est le matin, Pascal.
Ah, c'est ça.
Le oui, matin, on dit bonjour.
Il est à peine midi.
Je suis pas encore levé, moi, c'est pour ça.
Mais pour comment ça, vous n'êtes pas encore levé ?
Là, je dors, en fait. C'est pour ça. Vous vous rendez pas compte, mais je dors.
Mais pourquoi vous vous levez à quelle heure le matin ?
Bah, j'emmène ma fille à
7h30. Bah alors ?
Mais je me recouche aussi. C'est
vous vous recouchez ouais. après ?
Ah bah oui.
Mais vous êtes habillé pour l'emmener ?
Oui, mais il est antillais, donc ça s'annule.
Alors, est-ce que c'est une insulte ou c'est un complément ?
Non, mais alors, vous vous levez à quelle heure ?
Bah, 7h30.
Et après, vous vous recouchez ?
Je me recouche à 10h. Ah ouais. Je me lève à midi.
Oh là là !
C'est une sieste, en fait.
Non, c'est la nuit qui continue le matin.
Bah on est très honorés que vous soyez levé pour nous. Et vous, voilà. Philippe Leliève, vous levez le matin quand même.
Je me lève, je te bouscule. J'envoie surtout ma femme à l'école avec ouais. les enfants.
Et ils sont plus vieux, vos enfants, vous.
Un peu plus vieux. Enfin, oui. J'en ai un de 9 ans.
Oui, mais alors bientôt, que Pascal, il s'est reproduit récemment.
Ouh là là, merci. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, madame. Il faut qu'on se voit plus souvent. On se mette raccord un peu. Ouais.
Non, on a des grands et des petits.
D'accord, voilà. Vous avez deux enfants du même âge.
Exactement.
Ils s'entendent bien ?
Plutôt.
Ouais, d'ailleurs, ouais. Ton fils commence à kiffer la mienne.
Ouais, je crois.
Ouais,
ouais.
Ah oui ?
Ouais, devant une pizza, il s'est passé des trucs la dernière fois.
Ah bon ? Je ne suis pas contre.
Moi, je me pose la question.
Ah, c'est ça, quand on...
Il est raciste.
Alors, Pascal Légitimus et Philippe Leliève, vous jouez actuellement dans la pièce Non à l'argent, tête des bouffes parisiens. C'est quelqu'un qui gagne au loto, vous ?
Mon personnage, Richard, gagne 162 millions au loto. Et il les refuse. Et quand on me demande pourquoi, je dis, mais venez voir la pièce. Mais c'est du théâtre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un plaidoyer contre un personnage qui se bat contre son meilleur ami, donc Philippe Leliève, qui est à la fois mon patron, Claire Nadeau, ma mère, et sa femme, Julie de Bonnat.
La femme de... De votre mère.
La sienne, ah pas oui. celui de sa mère.
En fait, c'est la femme de votre mère.
C'est moi qui me couche, mais c'est toi qui dors.
On est plutôt pour les 162 millions, ouais. globalement.
Et vous, vous êtes contre. Voilà, on ne révélera pas ce qui se passe à la fin.
Oh, surtout pas. Mais pendant 1h25, je me bats pour leur faire comprendre que ça va tuer beaucoup de choses. Cet argent va pourrir beaucoup de choses.
Vous pensez que l'argent pourrit beaucoup de choses, Pascal Légitimus ?
Quand vous lisez les journaux, oui, je pense que oui, quand même, un petit peu.
Oui, mais en même temps, c'est agréable d'avoir de l'argent.
Bien sûr.
Mais moi, dans le doute, je veux bien essayer. Hein.
Ouais, l'argent, c'est bon serviteur, mauvais maître.
Le vrai, chemin du milieu. Bah, 80 millions, quoi.
Ouais, voilà. Ouais, c'est... Mais si ça ne te plaît pas, il est toujours temps de s'en débarrasser. Hein, on peut toujours, voilà.
Quel est votre rapport à l'argent dans la vraie vie, Pascal Légitimus ? Vous avez déjà dit non à l'argent ? Par exemple, pour un rôle qui ne vous plaisait pas, vous avez déjà refusé ?
Oui, j'ai une éthique de vie depuis très longtemps, enfin artistique. J'ai jamais fait quelque chose pour de l'argent. Vraiment, c'est vraiment pour le cœur. Pour ce que ça m'apporte intellectuellement. Et puis le plaisir de jouer, surtout.
Et vous, Philippe Leliève ?
Moi, je ne cours pas après l'argent. D'abord, quand j'ai décidé de faire ce métier, c'est-à-dire de monter sur scène, on sait que le théâtre, c'est plus compliqué. Enfin, on gagne bien sa vie au cinéma, on la gagne beaucoup moins bien au théâtre. Donc, oui, je suis plutôt content de faire mon métier et de gagner ma vie, mais ça ne m'obsède pas.
Ouais. Le lièvre ne court pas après l'argent.
Non.
C'est ça.
Joli.
C'est la bravo. Tortue qui me ramène tout.
Bravo.
Il y a des fois où...
S'il vous plaît, vous donnez depuis 20 ans des cours de théâtre, et il paraît que vous dites à vos élèves que... Tout le monde rêve de grands rôles, mais des fois, il faut faire ce qu'on vous propose aussi et de le faire bien. C'est
non,
ça
je leur dis qu'il faut être bon, surtout. Ouais. C'est pas un petit rôle. Si on est bon dans un petit rôle, on est bon. Il y a pas de grand. Enfin, après, il y aura des grands rôles où je souhaite qu'ils soient bons aussi, mais faut pas espérer tout de suite être dans la plus belle pièce avec la plus belle distribution dans le plus beau théâtre avec un cachet immense. C'est pas ça ce métier. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas nécessairement comme ça. Oui, c'est côté, l'opportunité d'une belle pièce. Et c'est vrai que je pourrais aller... Enfin, je ne vais pas le dire comme ça trop fort. Il n'y a pas trop d'auditeurs.
Non, non, on est quatre.
Non, mais si j'ai envie d'un projet, peu importe combien je suis payé. Si j'ai envie de défendre quelque chose.
Enfin, t'es comme moi, en fait, c'est ça. T'as dit plus longuement ce que moi j'ai dit en deux phrases, c'est ça.
Vous connaissiez avant de jouer ensemble, Pascal Légitimus et Philippe Leliève ?
Bizarrement, on se côtoyait dans des pinces-fesses comme ça, puis on a des amis communs, Gilles Galliot et puis d'autres personnes, entre autres, et puis on n'a jamais joué ensemble. Et il y a, on va dire, 15 jours avant qu'on se rencontre, j'ai dit, tiens, ça serait bien qu'on travaille ensemble. Et le hasard a fait que...
Vous êtes voyant, Pascal Légitimus ?
Un peu.
Il a des petits noms de guérison.
C'est vrai, je ne suis pas que médium, je suis aussi extra large.
Philippe Leliève, le grand public, vous êtes découvert. Alors, déjà, il faut dire que vous avez réussi la classe libre du cours Florent.
Oh, oui.
Mais ça, je vous admire parce que moi, vous avez 3 tours à la classe libre, d'accord ? Moi, je l'ai passé. Et moi, on m'a refusé au premier tour.
Pour quelle raison ?
Parce qu'il m'a dit que je ne réussirais pas le troisième, donc ça ne servait à rien de me donner le premier.
C'est génial.
Et vous, vous avez réussi.
Enfin, j'ai raté d'autres choses. Hein. Oui, j'ai réussi, mais à la fois, j'ai tenté le conservatoire. J'ai eu le premier tour à l'unanimité. Au deuxième tour, on m'a dit merci. Je prends rendez-vous avec le directeur de l'époque.
Jacques Rosner.
C'était pour pas qu'on... C'est pour pas savoir à quelle époque c'était.
Je prends rendez-vous avec Molière, non ?
Je prends rendez-vous avec Jean-Baptiste. Et là, il me dit, non, monsieur, vous êtes très bien, mais vous êtes trop près.
Bah moi, si ça peut vous consoler, j'ai raté le premier tour du conservatoire, mais il me manquait peu de points quand même.
Vous êtes trop loin.
Trop la sortie.
J'avais pas les 18 points et j'avais 16,5.
Non, mais c'est vrai que quand on a 20 ans, ça trouble.
Ah bah moi, j'ai cru mourir de chagrin. Ouais, ouais.
Ah bah moi, ça s'est passé différemment. Premier tour, je passe le deuxième tour et Jacques Rosner me convoque. Mais pour vous, ça va être compliqué.
La moustache ?
Je crois que c'était la moustache. Ouais. Mais il y a Jacques Cérès, donc membre de la Comédie Française, qui passe, qui était dans la salle, qui me dit « Ah, je ne m'inquiète pas, vous allez jouer. » Et ça m'a fait du bien. Voilà.
Mais pourquoi c'est compliqué ? Parce que vous n'étiez pas blanc, c'est ça ?
Si, à l'époque, si, il me semble que si. Si.
Non, c'était pas moi.
Ah oui, mais merde, excuse-moi.
Oui, totalement. À l'époque, on n'était pas nombreux. Je crois que j'étais quasiment le seul métis. Il y avait des Africains qui étaient invités.
Et la rue blanche, vous l'avez ratée, la rue blanche ?
Moi, la rue blanche, je ne l'ai pas fait. J'ai pas assisté. Non.
Philippe Bollet, vous l'avez ratée ?
J'ai pas raté, je l'ai pas passé.
Parce que moi, je l'ai passé trois fois.
Ah oui.
Et je l'ai raté trois fois. Ah.
La seule école d'humour qu'elle a réussi, je crois que c'est Sciences Po, finalement.
Mais tu sais, il y a Idriss Aberkane, qui est un neuroscientifique, qui dit que l'échec est un diplôme.
Oui, enfin,
je suis surdiplômé.
Non, mais quand t'as 20 ans, c'est bien de réussir aussi. Quand même.
Mais bien sûr, mais c'est vrai que ça fait mal.
Donc, passez le Légitimus, parlons de vous.
Parlons de lui.
Les gens connaissent votre vie, on va pas non plus.
Voilà. Donc, merci d'être le lièvre.
Merci d'être venu.
Salut. C'est bon. Il n'y a pas grand chose à raconter.
Pascal, votre père était acteur, Pascal Légitimus. Votre grand-mère était actrice.
Tout à fait.
Elle a même eu un prix à la Mostra de Venise.
Oui.
Votre mère était couturière de théâtre.
Tout à fait.
Arménienne.
Oui,
donc, vous êtes le mélange de deux cultures.
Oui, mais on ne peut pas passer comme ça sur Darling Légitimus, dire. C'était une grande quand même. Elle a tourné avec tout le monde. Petits rôles, mais elle a tourné avec beaucoup de gens.
Oui, c'est une grande dame, effectivement, qui a fait beaucoup de choses. Alors, si ça vous intéresse, je présente le documentaire que j'ai fait sur ma grand-mère le 12 avril au musée du Quai d'Orsay. Voilà.
Et exceptionnellement, ce soir-là, nous ferons relâche pour laisser Pascal
aller. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une relâche le 12 avril, c'est pour...
C'est pour ça, c'est pas à cause, c'est grâce à ça.
Donc, Pascal Légitimus, votre maman est morte quand vous aviez 15 ans, vous dites que ça a été très dur.
Je crois que pour tout le monde, c'est dur.
Que dès que vous entendiez le mot maman, la fête des mères, c'était...
Évidemment, il y a une grosse carence affective, donc le cordon ombilical est coupé, et à un moment donné, on n'a pas de repère ni de remère, c'est ce que je dis. Du coup, j'ai rencontré des filles qui m'ont aidé quand même à...
Des femmes.
Oui, je parle de femmes.
Des filles.
J'étais jeune.
Des petites filles. De 6 ans. C'est un petit peu osé.
C'est pas non plus, non.
Pour être dans un truc un peu intime sur le divan, c'est que je suis resté longtemps avec des filles parce que j'avais besoin.
Avec des femmes.
Des jeunes filles. Effectivement, avec des femmes.
Alors, à 23 ans, vous rencontrez Bernard Campan et Didier Bourdon. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Vous avez tout de suite eu un feeling incroyable ou vous pouvez pas les blairer au début ? Comment ça s'est passé ?
Moi, j'ai rencontré Didier à sa sortie de conservatoire. Et Didier a joué avec Bernard au théâtre de 10 heures. Voilà. Donc, du coup, on a créé cette coagulation artistique, cette amitié, et on s'est retrouvé au théâtre de Bouvard en 82.
Et là, après l'aventure que tout le monde
connaissez
connaît.
Vous connaissez la suite, voilà.
Voilà.
Avec les inconnus, il y a une grosse formation.
Oui,
là.
On a eu l'occasion de se retrouver. C'était super génial parce que Bernard, qui était le plus réticent, je l'ai vu jouir. J'ai vu la jouissance dans ses yeux, j'ai vu la lumière.
C'est lui qui ne veut pas...
Il dit, ouais, refaire des sketchs au bout de 30 ans, les mecs. Je dis, bah oui, mais c'est pour le plaisir, c'est presque un acte citoyen de revenir. Ne serait-ce que pour plus entendre, quand est-ce que vous revenez à Troyes ? Voilà, rien que pour ça déjà.
Ça, vous l'entendez tout le temps, Pascal Légitimus ?
Là, avant d'entrer, là, Europe 1. Mais bon, c'est bien, c'est de l'amour.
Mais c'est des gens du Sud, quand même. De...
Alors, Pascal Légitimus, vous avez fait beaucoup de mises en scène. Laurent Ruquier, Anthony Cavana, Stéphane Rousseau, Laurent Barra.
Et voilà.
C'est comment de travailler avec Laurent Barra ? Je veux dire, avec vous, il travaille parce que...
C'est bien de dire les choses, patronne, c'est bien.
Oui. C'est quelqu'un qui aime ce métier profondément. Il a envie de faire du bien, de faire plaisir, comme beaucoup d'entre eux, d'entre vous certainement. Mais en tout cas, c'est un artisan. C'est pas un artiste, c'est un artisan. Et je pense qu'il va grandir, évidemment, parce que là, il est juste dans les prémices. Donc je l'accompagne. C'est de la graine de champion.
Vous remarquerez qu'il a pas dit financièrement.
Ça, je fais pas ça pour l'argent.
Non, à l'argent.
Mais c'est pas très grave.
Il faut que je passe à Philippe Lelièvre parce qu'il attend depuis 10 minutes. Philippe Lelièvre, après la classique du confinement, vous êtes fait remarquer pour la première fois du grand public en 90 dans l'émission Ciel Montmardi de Christophe de Chavannes.
Oh oui.
Vous aviez improvisé sur le thème de l'adultère. C'était pas frustrant d'avoir une si belle formation théâtrale pour finalement se produire à la télévision ou...
Frustrant, non, parce que c'était.
C'était quoi l'histoire? Vous jouiez un.
Je faisais l'amant. C'est-à-dire qu'on était sur le plateau de Chavannes, donc il y avait le mari, la femme et l'amant. Moi, j'étais un jeune, je crois que j'étais un jeune ambulancier, ça, si mes souvenirs sont bons. Mais ce qui était très drôle, au-delà de ce qui est sorti de cette émission, c'était l'angoisse de Chavannes et de toute l'équipe, puisqu'on allait improviser. Donc, il me disait, mais qu'est-ce que vous allez dire ? On ne sait pas ce qu'on va dire, puisqu'on va improviser, puisqu'on a un thème, c'est le mari, la femme et l'amant, et c'est parti pendant un quart d'heure. Donc ça, c'était vraiment très drôle. Ça m'a beaucoup
plu. Et les gens vous reconnaissaient dans la rue après comme l'amant?
Alors le lendemain, j'ai cru que j'étais Alain Delon. Je suis allé acheter mon journal. Et tout à coup, j'ai été interpellé, mais comme jamais, parce que les gens nous ont reconnus.
À l'époque aussi, les gens regardaient beaucoup plus la télé. Il y avait moins de chaînes.
C'est fou. Je ne sais pas quelle a été l'audience, mais c'était énorme pour 23 heures.
Alors on vous voit aussi dans La Stagiaire, aux côtés de Michel Bernier.
Oui.
Ça se passe très bien depuis 4 ans maintenant.
Oui, c'est ça. Bah, c'est une équipe formidable, c'est une équipe de production vraiment top, très à l'écoute, qui a envie de ne pas que ça ronronne. Donc on est vraiment, ils sont à l'écoute de ce que l'on leur propose. Et voilà, on n'est jamais dans nos petits sabots, on prend des risques. Et Michel est une chef, une capitaine extraordinaire.
Il faut qu'on termine sur un truc drôle.
Alors, j'ai 3 couilles.
voilà.
Vous éclatez sur scène tous les soirs ?
Ah oui, c'est une pièce où il y avait vraiment de quoi s'éclater, surtout avec Claire Nadeau, qui est une femme exceptionnelle. Elle est inventive, créative. Julie Debona, bah, c'est une fille sincère. Donc,
et Philippe Lelièvre, il est très ennuyeux.
Non, mais on a de très belles scènes tous les deux, émotionnelles et à la fois drôles. Mais moi, je suis un peu le clown blanc, bizarrement, malgré les apparences. Ah, il y en a qui ont compris. je suis clown blanc, donc je distribue les cartes pour une fois, et c'est vrai qu'en face, ça envoie très très fort.
Et il le fait très bien. C'est vrai que c'est pas facile d'être le clown blanc.
Et vous, vous éclatez, Philippe Lelièvre, dans
cette pièce ? Je m'éclate. J'ai lu cette pièce, je m'en souviens encore. On m'envoie la pièce dans l'après-midi, je la lis. À partir du mot fin, je rappelle mon agent, je dis que c'est OK.
Je vous présente Michael Quiroga. Il est très prolique. Je ne sais pas s'il a beaucoup de talent, mais il a
Je
ne
sais même pas ce que ça veut dire prolique. Ça veut dire.
C'est de la bouffe pour chat, prolique.
On dirait un médicament prolique 500 deux fois par jour.
De le matin, de le soir.
Voilà. Alors bon, en tout cas, alors, Pascal Légitimus, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour, Philippe Lelièvre. J'ai trouvé que ça, hein. Je suis désolé. Je suis ravi de vous voir. Pascal, le roi de la vanne, Philippe, le roi de l'impro, tous les deux comédiens, auteurs, metteurs en scène. Philippe Lelièvre, j'ai lu que vous étiez né à Paris, dans le 16e arrondissement. Et bien alors, ça nous fait un point commun, parce qu'on est tous les deux des petits gars du 16e. Hein. Sauf que bon, moi, c'est l'étage. Dans l'astrologie chinoise, Philippe Lelièvre, alors ça vous étonne, vous êtes de l'année du lièvre.
Oui.
Non, c'est marrant, c'est comme si Yves Lecoq était de l'année du coq, Franck Leboeuf de l'année du bœuf, tu vois. Ou, je sais pas, moi, Olivier Giroud de l'année de la chèvre.
Placé.
Moi, je suis pas comme lui, je marque. Alors, Pascal, bon, des points communs, nous, on en a plein. Hein. Vous êtes né à Paris comme moi, vous êtes métis antillais comme moi, vous êtes humoriste comme moi, vous êtes connus de tous, hein, bah, pas comme moi. Vous êtes venu pour la pièce Non à l'argent. Alors, l'histoire de cet homme, hein, joué par Pascal, qui est l'heureux gagnant de 162 millions d'euros, qu'il refuse pour ne pas changer son mode de vie, pour ne pas que ses amis soient pervers. Par l'argent, alors c'est de la fiction, hein. Heureusement qu'il y a du bon sens, interprété par Philippe Lelièvre, qui joue votre meilleur ami et qui pète les plombs sans arrêt dans la pièce, passe son temps à vous traiter de connard. Et non, perso, moi si j'ai un pote qui touche 162 millions, qui refuse de les toucher, je le bute et je jure son identité. C'est simple. Non, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, personne ne refuserait 162 millions d'euros. Je veux dire, tous les gens qui sont dans cette salle là, mais s'ils devenaient millionnaires, ils sauteraient de joie jusqu'au plafond. Mais tiens, enfin, ceux qui peuvent encore sauter. Non, franchement, les seuls qui sautent pas de joie quand ils deviennent millionnaires, c'est les Kudjat, quoi. Et les milliardaires, peut-être. Voilà, mais 162 millions d'euros, on peut acheter 648 Ferrari neuves. C'est 4 fois la fraude supposée de Carlos Ghosn. Je veux dire, faut aller en prison au Japon 4 fois pour gagner tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut bien invoquer comme raison pour refuser 162 millions d'euros ? Je veux dire, non, je sais pas où les mettre. Non, ça va me faire changer de tranche fiscale. Je veux dire, 162 millions d'euros, moi, pour ce prix-là, mais je vous vends mon meilleur ami. Si vous me payez cash, je vous le livre à domicile comme une pizza en moins de 30 minutes. Franchement, non. Alors, vous, Pascal, dans la vie, vous êtes un peu comme votre personnage, hein, parce que vous avez dit, pour vous, l'humain était plus intéressant que l'argent. Ouais, dans une interview, vous avez même dit, c'est quoi un riche ?
finalement, c'est un pauvre avec de l'argent. Socrate sort de ce corps. Alors, dans la même logique, on pourrait dire, c'est quoi un pauvre ? Finalement, c'est un riche qui se demande où est passée sa thune. D'ailleurs, chaque samedi, il y a les riches en gilet jaune qui se posent la question. Voilà, vous avez dit aussi, on peut acheter une montre, mais pas le temps. On peut acheter une maison, mais pas un foyer. Vous êtes rentré dans une secte ou quoi ? Vous êtes devenu communiste ? Attends, pas étonnant que vous éclatiez à jouer le rôle d'un mec qui refuse une fortune. Non à l'argent, c'est le titre de la pièce. Hein. C'est aussi la réponse qu'on entend régulièrement dans l'équipe quand on dit « Anne, je peux te parler une petite seconde ?» Voilà. Mais c'est surtout une pièce où on rigole beaucoup, où on peut s'énerver un petit peu comme votre personnage, Philippe. Et puis, je le répète, c'était vraiment un plaisir, une joie de vous croiser tous les deux. Vous faites partie de mes idoles. Alors, au revoir Pascal Légitimus.
Adieu, Paula.
Et bien sûr, au revoir Philippe Lelièvre.
Pascal Légitimus, vous êtes vous autre femme, vous avez découvert qu'elle était arménienne et vous ne le saviez pas.
Oui, au bout d'un an.
Au bout d'un an ?
Bah oui,
il faut se parler un petit peu.
Mais oui, mais le nom qui termine par Ian, c'était pas un indice ?
Non, non, son nom c'est Santini, donc son père c'est Pierre Santini d'origine italienne.
Ah, vous connaissez son nom, hein, c'est pas mal.
Bande de coquins. C'est vrai que elle me dit, mais toi, t'es de quelle origine ? Parce que
au bout d'un an.
Je suis slovaque.
Non, je lui ai dit, bah, d'origine.
C'est parce qu'il s'était pas encore vu, c'est pour ça.
C'est ça. Je lui ai dit, bah, je suis d'origine antillaise, tu vois. Puis j'ai pas poussé le bouchon parce que j'avais pas envie d'entrer de. Parce que c'était tout douloureux pour moi d'en parler.
De votre mère arménienne ?
Mais oui, c'est ça la vraie raison. Et à un moment donné, on a ouvert les valises, puis on a sorti tout. Voilà. Puis on s'est. Ah, d'accord.
Ça a dû vous faire un choc quand vous avez découvert ça ?
Ben, c'est un peu comme la pièce La planète inconnue que j'ai vue quand j'avais 9 ans. Le moins connu était déjà dedans. Je crois que le destin est prédestiné. Je commence à le comprendre et à le croire. Effectivement, il y a des rencontres, et ça vous le savez tous, qui doivent se faire. Il y a des gens qu'on doit rencontrer, qu'on doit partager avec certaines choses, et je me suis dit, bah, c'est le destin, je l'accepte.
C'est beau.
Oui, c'est beau.
Et vous, votre femme est arménienne, Philippe Lelièvre ?
Ma femme est corse, donc arrêtez de déconner.
Et vous allez en Corse en vacances, mais vous, avec votre teint de roux, vous devez brûler.
Oui, on réserve jamais.
Avec votre teint de roux,
on réserve jamais à mon nom.
Vous réservez à son nom, qui
à
est plus
nom.
Corse.
Oui, oui. Ah bah, qui est plus corse, qui est complètement corse, oui.
Et du coup, vous avez des bons hôtels.
Des très bons hôtels, des très belles vues, une très belle mer. On nous change la mer tous les matins. Non, simplement, on ne va pas qu'en Corse non plus. Hein.
Et au soleil, évidemment, vous brûlez.
Oui, enfin, moi, je suis très. Pas tellement, je ne me mets pas tellement au soleil.
Ah bah oui, parce que.
Moi, je me mets un peu au soleil, au sport d'hiver. J'adore la montagne, j'adore marcher la montagne, j'adore le ski de fond, j'adore le ski. Le parachute et le vélo.
Ça, c'est pas très intéressant.
Non, je sais, mais j'ai 3 couilles.
Bah, du vélo avec 3 couilles.
Bah, du vélo avec 3 couilles, t'es embêté, ouais. Tu penses d'un côté.
Même du parachute quand il s'ouvre.
Laurent Barra a des choses à vous dire, Pascal Légitimus et Philippe Lelièvre.
Ouais, chouette. Non, plutôt, aujourd'hui, c'est aux accros, aux jeux de hasard que je voudrais m'adresser. Turfiste, turfeuse, gratteur, gratteuse, cette chronique vous est dédiée. À toi, joueur de loto, qui depuis 30 ans joue chaque jour une date importante de ta vie, qu'elle soit de naissance, de dépucelage, espérant secrètement jouer un jour celle de ton divorce. Car comme le dit votre devise, il vaut mieux être heureux au jeu que malheureux en amour. Et à toi, parieur fou, qui cherche chaque matin, dans la pénombre d'un PMU de quartier, l'ordre d'arriver d'une course de chevaux aux surnoms très étranges tels que Love Baby Love ou Crottin d'amour, chevaux portant sur le dos, en plus d'un jockey de 36 kilos, la lourde responsabilité de t'aider à payer tes crédits à la conso. À vous, amis gratteurs compulsifs, qui, comme ma grand-mère, êtes accro aux millionnaires, astro, bingo ou autre cash. Ma grand-mère, qui a passé les 15 années de sa vie à gratter frénétiquement ses morpions en faisant bien attention à ne surtout pas gratter la mention anxiogène, nul s'y découvert.
Elle a gratté ses morts, je crois.
À vous à qui l'argent a trop souvent dit non, je conseille vivement d'aller voir Non à l'argent, cette pièce de théâtre au titre et à l'histoire sonnant presque comme un roman de science-fiction pour les chercheurs d'or que vous êtes. L'histoire de Richard interprétée par Pascal Légitimus, bien loin pour le coup de ses personnages fétiches tels que Marie-Thérèse ou autre Momo. Bonjour Pascal. Pascal Légitimus qui nous foutrait presque le bourdon en campant. Message subliminal. Richard, malheureux gagnant du loto, qui annonce à sa femme, sa mère et son meilleur ami, interprété brillamment par monsieur Philippe Lelièvre, qu'il refuse les 162 millions d'euros de gains offerts par la Française des Jeux pour ne pas gâcher, soi-disant, leur relation. 162 millions d'euros. À ce prix-là, t'as plus de mère, t'as plus de femme, t'as plus de meilleur ami. Non, je dis ça en plus, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis plutôt adepte de la philosophie de la pièce selon laquelle l'argent ne fait pas forcément le bonheur ni la qualité d'une personne. Et qu'à la différence de ce que veut bien nous faire croire la société de consommation et les tickets de grattage de ma grand-mère, nous ne sommes pas nuls, s'y a découvert.
avec son livre, le guide des livres pour enfants, pour parents curieux. Elle réussit l'exploit d'aider les enfants, les parents, à choisir les livres et les albums qui permettent d'aborder avec les enfants toutes les questions qui peuvent se poser ou nous poser. Alors on lui dit merci, on l'applaudit. Nathalie Le Breton est notre invitée. Merci. Bonjour Nathalie Le Breton.
Bonjour Anne Romanoff.
Alors c'est le guide des livres.
Et bonjour à tous.
Bonjour.
Les garçons.
Bonjour.
Quand même.
Bonjour.
Non, c'est vrai, c'est rare qu'on nous dise bonjour.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, en plus.
Les invités disent bonjour Anne Romanoff, oui. Nous c'est les meubles.
Ouais. On nous jette des cacahuètes.
Enfin, plutôt pas trop mal hein, comme meubles.
Ouais. Ça va. Merci. Oh 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 c'est vrai que je bosse.
C'est votre style Nathalie Le Breton?
Ouais. Mon style?
Oui, d'homme.
Mais c'est-à-dire que là, il y en a quatre.
Ouais.
Et ça me va bien.
Il y en a pour tout.
D'accord. On va demander
pour tous les goûts en plus.
Voilà, l'émission est finie, sortez.
On est venu pour parler d'un livre,
oui, c'est vrai.
Le guide des livres pour enfants, pour parents curieux. Ouais. C'est-à-dire que vous avez très très longtemps travaillé au maternel, pendant 15 ans, l'émission Les Maternelles. Ouais. Vous êtes farci des tonnes de livres pour enfants. Ouais. Et vous êtes pris de passion pour les livres pour enfants.
Ah oui, non mais je suis tombée complètement dedans et je ne lis plus que ça maintenant. Même, je
mais ça vous donne pas un côté un peu enfantine du coup?
Oui, je pense que j'ai une âme d'enfant encore, mais ça me met
parce
beaucoup de joie.
Parce que vous avez mon âge. Hein.
Bah, écoutez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais oui, quelque chose.
32. Sur sa page Wikipédia, il y a marqué 32, mais j'ai l'impression que c'est elle qui l'a écrite, la page.
Oui, parce qu'il y a marqué 1m80 aussi.
Il y a marqué grande carrière à Hollywood, alors bon.
Et je crois que j'ai vu 53 kilos. Donc, ouais.
Vous conseillez 160 titres pour tous les problèmes de la vie. On divorce, le parent picole, il y a de la pédophilie, il y a tous les... Voilà. Les handicaps,
les
la grossesse,
sujets,
la jalousie, la colère, pousse tétine, sommeil, tout ça. Pour tous les thèmes compliqués, on peut trouver des livres.
Et pas que compliqués aussi, Anne. L'idée, c'est vraiment de sourire.
Zizi Zezette, mode d'emploi.
Ah bah voilà.
Ils cherchaient un mode d'emploi.
J'ai toute la collection.
Moi, j'ai vu le film, très bien.
Peur, impatience, colère, parler des émotions... Sommeil, pour ceux qui ne dorment pas. Ouais. Qui ne dort pas?
Moi, très peu.
Faut que tu lises Sommeil, il y a des livres pour enfants.
Elle a un côté très maternel avec moi, alors faut que tu lises Sommeil. Voilà.
Pour arriver à ne pas dormir dans le lit de maman,
se
en fait.
Très bien,
bah, par exemple, tu peux lire ce livre. Si tu ne veux pas aller au lit, surtout ne baille pas. Voilà. Voilà, et ça va t'aider.
Sinon, il y a Choupi fait dodo. Voilà.
C'est un livre de 6 pages avec 12 images.
Et t'as Moi j'aime la nuit. Ah voilà, de 18 mois à 3 ans.
Ah bah, très engagé politiquement. Hein.
Mais de toute façon, vous avez des souvenirs pour rire comme ça. Vous avez des souvenirs de livres pour enfants.
Bien sûr.
Enfin, je veux dire, je pense
sûr.
Que c'est ça le livre pour enfants. C'est que ça amène du rire, ça amène du sourire. Et un enfant qui sourit, ça devient un adulte qui rit, je pense. Et en plus, le parent regarde son gamin très différemment.
Et un adulte qui rit est à moitié dans ton lit, faut pas l'oublier.
Jean-Philippe, vous avez lu des livres à vos enfants?
Non, je
crois. Souviens-toi à tes enfants, les deux là.
Oui, oui, non, c'est.
Tu lis pas de livres à tes enfants?
Ils ont quel âge déjà?
Il faut savoir.
8 et 14.
Donc à la petite. Ouais.
Le petit, non, bah lui, non, mais non, qu'est-ce que je dis 8? Il a 10 ans demain. Non, hey, ça sent le père impliqué dans la vie des gosses. Hein. Non, il va avoir 10 ans le 16 avril.
Est-ce que vous êtes vraiment père de famille?
Le juge a dit que oui. Donc, moi, je lâche des thunes tous les mois. Mais...
Alors, Nathalie Le Breton, vous êtes à tel point passionnée des livres pour enfants que vous avez créé un site internet où vous proposez des box où on peut s'abonner pour recevoir des livres pour enfants que vous choisissez pour les gens, en fait.
Mais oui, ça s'appelle Noticeoton, un mot grec qui veut dire connais-toi toi-même. L'idée, en fait, c'était justement de donner le livre à voir, c'est-à-dire de se décomplexer de la lecture des livres pour enfants.
Vous avez vendu 70 000 livres.
C'est dingue, dingue. Je suis assez fière. En un an et demi, vendre 77 000 livres pour enfants, je peux vous dire que, enfin bon, moi-même, je suis un peu les yeux écarquillés, mais ça veut dire que ça prend, et c'est super important de maintenir
le livre
en face des tablettes.
C'est surtout que c'est une telle jungle aussi, les livres pour enfants, qu'on ne sait pas, on est perdu quand on est parent, on ne sait pas forcément quoi acheter, et grâce à vous, on sait.
Guide et à Noticeoton. Imaginez 10 000 livres qui sortent chaque année, c'est quand même un truc de fou. Il y a à peu près 1 000 éditeurs. Donc quand vous allez chez un grand distributeur, alors quelquefois vous avez la chance d'avoir un très bon libraire et ça c'est top. Et puis si vous allez chez un grand distributeur, vous ne savez pas lequel choisir. Et si vous prenez le livre qui ne va pas faire mouche avec votre gamin, c'est terminé. L'enfant n'y reviendra plus et le parent non plus d'ailleurs.
C'est très beau de mettre en valeur ça parce que, moi de ma génération,
c'est comme ça qu'on occupait les enfants et ça se perd un petit peu, c'est très bien.
Oui, et puis je vais vous dire, il y a quand même une urgence à ressortir ça, parce qu'on s'est rendu compte que la lecture sur tablette, c'était une lecture extrêmement rapide, en diagonale, une lecture écumoire, et qu'en fait, il semblerait que c'est très bien pour certaines parties du cerveau, mais en revanche, en termes d'empathie, en fait, vous éloignez l'enfant de ça, qui a l'habitude de lire de façon, de ne pas entrer dans une pensée profonde, si vous voulez. Et c'est pour ça que c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est deux types de développement du cerveau chez l'enfant.
C'est vrai que la tablette, ça rajoute une distance avec l'objet, quoi.
Et avec le parent aussi, d'ailleurs.
Ouais. Alors, vous avez été chroniqueuse au maternel, et moi, j'étais persuadée que vous alliez finir par en être la présentatrice.
Ouais.
Et les présentatrices se sont succédées, et on vous a jamais demandé.
Est-ce que t'as d'autres sujets qui fâchent comme ça ou pas ?
Mais non, mais c'est un mystère pour moi, parce que je vous trouve charismatique, sympathique, chaleureuse. Et...
Bah, c'est sympa, mais moi aussi, c'est un vrai mystère pour moi. Alors, on m'a longtemps dit que c'était important d'être un vrai numéro 2. Ça ne s'est pas fait, je ne devais pas plaire dans les arcanes, probablement.
Vous n'avez pas couché ?
J'ai sûrement couché, mais pas avec les bonnes personnes.
Ah ben moi, Europe 1, j'ai couché avec tout le monde et pourtant je suis toujours là.
Alors, votre premier amour, c'était à 13 ans, Nathalie Le Breton.
Ah bon ?
Mais dis donc.
Mais c'est ça, vous avez
Mais vous êtes hyper renseignée.
Ah bah oui,
ah bah
on avait discuté toutes les deux.
Et
ou
non, pas du tout, il s'appelait Vincent. Et vous étiez très amoureuse, mais il vous a écrit une lettre et il y avait tellement de fautes d'orthographe que vous avez rompu.
Ah, vous êtes comme ça.
Ah ouais, mais c'est fou ça.
Vous êtes dur quand même.
Ouais. Oh là là, non, j'avais reçu une lettre d'amour.
Pauvre gosse, 13 ans.
Ouais, bah moi aussi, pauvre gosse, j'étais.
Ouais, c'est vrai, pauvre gosse, mais.
Mais de faire larguer pour des fautes d'orthographe.
Ouais, bah au moins, ça lui donne une leçon, quoi.
Aujourd'hui, avec les SMS, vous pourriez sortir avec personne.
Ça tombe bien.
Nathalie Le Breton, vous dites aussi qu'il faut arrêter de culpabiliser les mamans, halte à la culpabilité, à la pression générale, il n'y a pas de recette miracle pour devenir maman, on fait ce qu'on peut.
Alors ça, terriblement. C'est-à-dire, je pense que la culpabilité ambiante qui vient de tout le monde, de la famille d'ailleurs, en premier, après des institutions, etc., ça vous pousse dans le stress. Et aujourd'hui, on parle de burn-out parental, c'est-à-dire ces femmes qui veulent absolument bien faire. Je parle des femmes essentiellement, c'est elles qui sont concernées. Et on a le droit de faire des erreurs, oui.
Et alors, maintenant, vous êtes dans une famille...
Non mais ça va la psy, là.
Ça va enchaîner. Alors maintenant, vous êtes.
Alors maintenant, vous êtes. Vous avez eu peur du noir jusqu'à 12 ans.
Je vais arriver. Alors maintenant, vous êtes sur Tinder sous le pseudonyme de Petite Belette. Racontez-nous ça, quoi.
Nathalie Leroux.
Non, alors là, je vous interromps. C'est pas Petite Belette, mais à l'époque d'Europe 1, parce que j'ai travaillé à Europe 1 il y a bien longtemps, et Jean-Loup Lafon qui m'appelait La Fouine. C'était les chroniques de La Fouine.
Ouais. Et vous aimeriez refaire de la télé, Nathalie Le Breton ?
De la télévision, peut-être pas. De la radio, oui, probablement. Parce que j'aime ça, là. J'aime ce qui est en train de se passer. La télévision, c'est devenu quelque chose d'hyper publicitaire.
On vous a fait des propositions après les maternelles ?
Aucune.
Ça, c'est vexant.
Il y a un livre qui est en route là-dessus, bien sûr.
Ah oui ?
Je dirais comment je me suis fait virer, oui, bien sûr.
Ah.
Non, parce que je suis très extravertie. Non,
vous êtes une concierge. Vous êtes virée. Ouais.
Je présente quelqu'un qui écrit aussi à sa manière.
Bien sûr.
Sa manière, Dieu.
Merci. C'est Jean-Philippe Vizini.
C'est cette façon de me mettre en valeur.
C'est la marque de la maison en même temps.
Il n'a pas fait Hippocagne.
Je suis toujours très gêné parce que vous mettez tellement sur un piédestal. J'ai peur qu'après, les gens soient dessus après ça.
Jean-Philippe Vizini a des choses à vous dire, Nathalie Le Breton.
Oui, parce que ma fille, voilà, on parle des enfants. Et donc, j'ai une fille qui a fait son premier babysitting. Parce qu'on a voulu se faire un resto avec les voisins. Et donc, c'est ma fille de 15 ans qui s'est proposée pour garder leur fils de 3 ans. Voilà, c'est la première fois qu'elle faisait du babysitting. Mais bon, il faut bien un début à tout. On les a laissés tous les deux, ma fille de 15 ans, le petit de 3 ans, à la maison. On est parti au resto. Alors, pendant la soirée, j'ai quand même passé un coup de fil pour savoir si tout se passait bien. Allô, chérie, alors, tu lui as fait à manger ? Vous avez mangé quoi ? Elle, eh ben je lui ai fait un biberon. Ah, c'est bien, avec du lait. Non, j'ai mis du coca et du jus de pomme. Je dis, mais du jus de pomme, mais on n'a pas de jus de pomme. Tu l'as trouvé où, ce jus de pomme ? Elle me dit, dans le placard du salon. Je dis, mais c'est pas du jus de pomme, c'est du whisky. Oh là là. Et alors, le gamin, il a tout bu ? Oui, il a même voulu un deuxième biberon. Et après, on a chanté des chansons. Ah ben, tu m'étonnes, après deux whisky coca, il devait être complètement pété, le gosse. Et après, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait quoi ? Il m'a demandé comment on fait les bébés. Mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Ben, comme je savais pas, j'ai tapé sur Google comment on fait les bébés.
Eh ben, il y a plein de vidéos, c'est très bien expliqué. Oh là 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 là. Mon voisin qui me demande, alors ça se passe bien? Eh ben, impeccable, ils se sont descendus deux whisky coca, maintenant ils mettent des films porno. Voilà. Bon, écoute, chérie, écoute-moi, il a 3 ans, faut que tu lui lises des histoires. Elle, eh ben c'est ce que j'ai fait. Ah, bon, alors qu'est-ce que tu lui as lu? Eh ben, je lui ai lu ta feuille d'impôt, ça l'a bien fait rigoler. Je lui dis, bon, bah, montre-lui plutôt ton carnet de notes, tu verras, ça va bien le faire rigoler aussi. Voilà, tout ça pour dire, Nathalie Le Breton, que si on avait eu votre livre à la maison, eh ben, on n'en serait pas là. Voilà.
Merci. Merci, Nathalie Le Breton, d'être passée nous voir.